Eh bien, bienvenue à nous tous, puisque le Seigneur n'est pas encore revenu. Nous en sommes sûrs. Alors, il nous est dit, dans la première de Jean, au chapitre 3, au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Il faut qu'on nous le rappelle, il faut que le Saint-Esprit nous le rappelle. Quand on va le voir, il sera magnifique et on sera semblable à lui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et il nous demande de persévérer encore.
Seigneur, nous venons de chanter que tu reviens bientôt, victorieux, pour nous ouvrir les cieux. Quel avenir, Seigneur, pour ceux qui t'attendent. Et nous voulons ce matin t'apporter notre reconnaissance, te remettre ce culte demandant d'ouvrir ta parole pour que nos cœurs puissent recevoir de toi tout ce que tu as à nous donner. Seigneur, nous voulons te remettre ces moments, que tu les conduises, que tu les bénisses, Seigneur, et que ce culte puisse te rendre la gloire qui te revienne, Seigneur. Amen.
Pour partager ce moment, on lira tout d'abord quelques versets dans Luc 22. Luc 22, les versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Ces quelques versets nous rappellent que Jésus s'est livré sans opposition à la crucifixion, sachant qu'il allait mourir dans des souffrances indicibles. Et nous allons une fois de plus partager ce repas en mémoire de notre Seigneur qui nous a offert le salut, un salut éternel. La définition du salut, c'est le fait d'échapper à la mort, au danger ou de recouvrer un état heureux. Alors, échapper à la mort ou à la perdition éternelle et recouvrer un état heureux, c'est bien ce que Jésus a offert à chaque chrétien, à chacun de nous. La traduction de la définition du salut, on peut la retrouver dans Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ne périsse point, donc c'est bien le fait d'échapper à la mort, et puis qu'il ait la vie éternelle, alors oui, c'est vraiment recouvrer un état heureux. Pourquoi péririons-nous? On peut se dire. Romains 3, 23 nous le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien avant, Ésaïe 59, verset 2 disait « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Avec cette conséquence inéluctable de Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Donc on revient au fait que le salut, c'est le fait d'échapper à la mort. Rien de nos actes ou mérites ne pouvait nous rendre justes et acceptables devant Dieu. Alors comment chaque homme pécheur par nature peut-il être réconcilié avec Dieu? Ce n'est pas l'homme qui a la solution. Quels que soient nos actes, tout ce que nous pouvons faire, ce n'est pas nous qui décidons de la réconciliation. C'est Dieu lui-même qui a établi un plan de salut pour l'humanité, un plan qui se décline individuellement pour chacun de nous. Un plan qui prévoyait le don de son Fils, un plan de salut qui allait répondre à cette question fondamentale pour chaque homme pécheur, comment être réconcilié avec un Dieu saint. Ce plan de salut est l'œuvre de Dieu en faveur de l'humanité perdue, car Dieu ne voulait pas abandonner les hommes à leur condamnation. Il aurait pu. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas abandonnés à notre condamnation? Eh bien, Benjamin nous l'a rappelé dimanche dernier. Au début, il a dit « parce que », décision de Dieu, mais parce que Dieu est amour. Donc on peut le rappeler, on peut le rappeler tous les dimanches d'ailleurs. L'amour de Dieu a préparé et engendré l'œuvre du salut. Dieu nous aimait alors que nous ne le cherchions pas, que nous ne l'aimions pas, ou que nous étions au mieux indifférents, ou au pire opposés à lui. Romains 5, 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et pour encore mieux comprendre l'amour du Père et la façon dont il nous voit lorsque nous venons à lui, on pourra prendre la parabole du Fils perdu. On lira dans Luc 15, les versets 11 à 24. Luc 15, 11 à 24. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Cette parabole va nous montrer la condition de l'homme pécheur, la grâce, la repentance, le pardon. Dans ces versets, le père aime ses fils et respecte leur choix. On voit que le fils cadet veut vivre loin et indépendamment de Dieu, et il choisit la rébellion en quittant la maison du père avec l'illusion de la liberté. Il va trouver sa satisfaction dans ce qu'offre le monde, mais ensuite cela va être la ruine. Et il va tout perdre, sa richesse, sa dignité, il va garder les pauvres, et sa sécurité, parce qu'il mange uniquement parce que quelqu'un veut bien l'employer. Il désire même la nourriture des pauvres. Cette scène illustre l'état spirituel de l'homme séparé de Dieu, absence de paix, dépendance du péché. Ensuite, il va y avoir le début de la repentance, si on peut dire, étant rentré en lui-même. Le fils réalise son état et voit qu'il est perdu, qu'il est pécheur. Il ne cherchait pas d'excuses et se repent au verset 18. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et il va retourner vers son père qui attendait son retour, qui le voit en premier en étant ému de compassion et qui va courir vers lui. On pourrait penser que c'est le fils qui va courir vers le père, mais c'est le père qui court vers le fils. C'est la même chose aujourd'hui pour chaque pécheur qui se repent. Dieu est ému de compassion. Dieu est pressé d'accueillir le pécheur repentant. Dieu est pressé de nous offrir le salut. Et dans cette parabole, le Père le reçoit comme son fils, sans reproche, sans tenir compte de ses erreurs passées. D'ailleurs, on peut voir qu'il ne répond pas au verset 21 quand le fils lui dit « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », etc. Mais il répond en organisant des réjouissances et en restaurant son fils à la place qu'il a en fonction de ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire de se repentir. Dieu agit comme cela pour chaque homme qui se repent. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. C'est le verset 24. Le salut est un acte de grâce. Éphésiens 2, 8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le croyant devient enfant de Dieu en obtenant le salut par pure grâce. Dieu, par amour, a envoyé son Fils dans le monde et Jésus est le seul chemin du salut. On le sait, il est bon de le rappeler. Jean 14, 6, Jésus dit à Thomas « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Notre Seigneur est mort à la croix, car il fallait qu'un sacrifice parfait soit offert pour notre salut. 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Lui, le juste, est mort pour des injustes. Lui, saint, a porté le péché des coupables. Lui, roi et seigneur, est devenu serviteur afin que nous, esclaves du péché, puissions devenir enfants de Dieu. Lorsque Jésus s'était crié à la croix, tout est accompli, Jean 19, 30, l'œuvre du salut était pleinement achevée. On l'a déjà dit et répété, mais l'œuvre du salut était pleinement achevée. Ce salut dont nous avons vu la définition tout à l'heure. Alors, au moment de prendre ce repas, remettons au centre de notre vie de chrétien ce que veut dire et ce que représente un salut éternel. Ce que ce salut gratuit a coûté au Fils de Dieu et, comme ça nous a été rappelé, la dimension de l'amour du Père pour chacun de nous, nous offrir un salut éternel qui n'aura pas de fin. Alors, on va le remercier et prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que ta parole. Te remercier d'avoir remis devant nos yeux toute la dimension du salut, tout ce que ça a pu coûter à notre Seigneur et tout ce dont nous sommes aujourd'hui au bénéfice. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous garder. Merci de nous avoir offert ce salut éternel. Amen.
C'est la fin de l'année scolaire. Certains sont plus concernés que d'autres. La fin de l'année scolaire, c'est le moment de faire des projets. Est-ce que vous faites des projets ? Qu'avez-vous prévu de faire pour cette année scolaire 2026-2027 ? Eh bien, pour vous aider dans cette idée, j'ai une information importante pour vous. L'avenir ne vous appartient pas. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de projets, mais il faut faire des projets avec sagesse. Et savoir que ce n'est qu'un projet, et pas une prophétie. C'est pas parce que vous avez projeté quelque chose que ça se réalisera. C'est ce que nous dit un texte de la Bible, dans les Proverbes. Alors nous allons ouvrir nos Bibles, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16. Proverbes, chapitre 16. Et nous commencerons par lire les 9 premiers versets. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Encore une fois, ce texte ne nous dit pas qu'il ne faut pas faire de projet. Ce qu'il nous dit, c'est que ce qui importe, c'est l'approbation de Dieu. Et Jésus l'a illustré par une parabole. C'est Luc qui nous raconte ça. Luc 12, les versets 16 à 21. Luc 12, 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Dans cette parabole, le problème, c'est que le projet est tourné vers les biens matériels. Il n'est pas tourné vers les plans de Dieu. C'est aussi un thème que Salomon a traité dans le psaume 127. Je vous le lis, les deux premiers versets. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Des projets. Avec le verset qu'on vient de lire, il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil, on peut avoir une réaction. Eh bien, du coup, puisque tout est dans la main de l'Éternel, ne faisons plus rien. Laissons-le faire et reposons-nous. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous confie des tâches, il nous confie des missions. Et ce serait assez malhonnête de considérer que ce verset nous incite à ne plus rien faire. La malhonnêteté. La malhonnêteté. Face à un projet qui nous tient à cœur, eh bien, il est facile d'échafauder toute une argumentation pour dire que finalement, c'est dans la volonté de l'Éternel. Et de nous tromper nous-mêmes, en essayant simplement de tromper les autres. C'est quelque chose qu'Ésaïe nous présente au chapitre 5, le verset 20, je vous le lis. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Les projets doivent être dans la volonté de Dieu et pas dans la volonté des hommes. Alors qui ça concerne ? Tout le monde. Ça concerne tout le monde. Mais il y a une vieille citation, vous avez peut-être entendu, qui dit « Gouverner, c'est prévoir. » Gouverner, c'est prévoir. Donc il faut faire des projets, il faut prévoir si on a à gouverner. Alors qu'en est-il de ceux qui nous gouvernent ? Eh bien, notre texte des Proverbes, c'est exactement ce qu'il nous dit. Proverbes 16, les versets 10 à 15, nous parlent des rois et plus généralement des autorités et des projets qu'ils font et des attitudes qu'ils ont. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Quand on a des responsabilités, il faut distinguer plusieurs aspects. Dans ce texte, il y a plusieurs aspects dans la responsabilité des autorités. Pour quelqu'un qui a des responsabilités, il est facile de se souvenir des deux derniers versets qui témoignent de l'autorité, qui témoignent de la puissance, allant jusqu'à la mort et allant jusqu'à la vie. Mais il ne faut pas oublier que cette autorité est pour juger justement. Et le texte commence justement par cela. Toute autorité a la responsabilité d'utiliser le pouvoir pour le bien. Et la nôtre de responsabilité vis-à-vis de ça? La nôtre de responsabilité, c'est de prier pour ses responsables. Paul le rappelle à Timothée dans sa première épître au chapitre 2, les versets 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Il y a eu beaucoup de rois en Israël, une multitude, avec des règnes plus ou moins longs. Se sont succédés, malheureusement, pour beaucoup, la conclusion de leur règne a été « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Prions pour nos autorités, pour que leurs projets soient dans la volonté de Dieu. La suite de notre texte de Proverbe 16 concerne tout le monde. Et ça va nous réjouir le cœur, puisque ce sont des promesses. Mais il y a quand même quelques mises en garde. Versets 16 à 25. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La sagesse, l'intelligence, la droiture, l'humilité, la confiance en Dieu, la douceur, le savoir, tout cela, ce sont les conséquences de l'attachement à Dieu. Sagesse, intelligence, droiture, humilité, confiance en Dieu, douceur, savoir. On croirait entendre plus ou moins le fruit de l'esprit. Et les mises en garde qui concernent les risques, eh bien, c'est un risque de chute, un risque de folie et un risque de mort. Et dans les avertissements, la suite du texte va même plus loin, puisqu'il parle de ceux qui rejettent Dieu et de leur façon d'agir. Versets 26 à 30, « Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. » L'homme pervers prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite les querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Ça n'est malheureusement qu'un échantillon des pécheurs et de leurs méfaits. Il n'y a pas de condamnation directe ici. Mais il faut garder en tête deux choses. D'une part, le chaos qu'ils mettent, ils doivent aussi le subir. Et d'autre part, rien n'arrive sans que Dieu l'ait autorisé. Enfin, les trois derniers versets nous donnent des principes génériques. Versets 31 à 33, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Alors parmi nous, nombreux sont ceux qui ont des cheveux blancs. C'est un fait. N'oublions pas que cet honneur ne se trouve que dans le chemin de la justice. Et la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Et je préciserai qu'il n'est pas réservé à ceux qui veulent conquérir des villes. C'est quelque chose qui est valable pour nous tous. Quant à cette histoire de tirage au sort, ça mérite une petite explication. Tirage au sort dans la robe, eh bien, il y avait en Israël une façon dont on essayait de connaître la volonté de Dieu qui consistait à jeter le sort dans la robe du grand prêtre. C'est une pratique qui est vaguement inspirée d'un texte de la loi, mais ce qui importe surtout dans ce verset, ce qui importe le plus, ce sont les derniers mots. Toute décision vient de l'Éternel. Alors faisons des projets, mais ce qui ressort de ce texte, c'est l'importance de Dieu dans les plans, les approbations et les décisions. Depuis qu'Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous savons discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais cette connaissance est bien trop facilement perturbée par le malin. Il nous faut revenir à la référence. Et la référence, c'est Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce texte qui nous rappelle l'importance que tu as dans les décisions que nous prenons, dans les projets que nous faisons, dans les chemins que nous empruntons. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin que tu nous éclaires, que tu nous dises ce qui est bien et ce qui est mal, que tu nous le rappelles avec force. Seigneur, nous voulons être à ton écoute pour savoir quelle est ta volonté. Amen.
Et nous avons tous reçu que si nous prenons cette décision de mettre le Seigneur dans nos projets, il y a la paix du cœur. C'est magnifique. Dieu nous donnera toujours le chemin à suivre dans la paix.
Seigneur, à la fin de ce culte, nous voulons te remercier pour ta parole. Tu nous as rappelé que l'importance est d'être dans tes voies, de marcher dans tes voies, que tu sois dans nos plans, dans nos projets. Seigneur, te demandons que cette parole puisse être une réalité, que nous ne nous égarions pas à droite ou à gauche, mais que nous puissions ensemble, Seigneur, marcher fidèlement dans ce que tu nous montres. Merci de raccompagner chacun, de bénir ceux qui n'étaient pas là, Seigneur, et de conduire cette semaine, que nous puissions mettre ta parole vraiment en pratique, Seigneur, dans nos voies. Amen.